À voix nue, Laurent Goumard s'entretient avec Emmanuel Luynes. Aujourd'hui, distribution en cours. Emmanuel Luynes, nous sommes en l'an 2000, et vous signez cette année-là distribution en cours, donc c'est le titre de ce travail. C'est le titre aussi qui a une valeur de programme, puisqu'on peut dire que cette année-là, vous allez tout redistribuer. C'est votre première pièce de groupe, au cours de laquelle d'ailleurs vous disparaissez physiquement, puisqu'il y a un solo et puis il y a une installation plastique qui est dirigée par Christian Rizzo qui va vous dissimuler aux yeux des spectateurs et puis vous n'apparaîtrez plus sur le plateau, alors même que la pièce vient de commencer. Bref, au moment où vous chorégraphiez une pièce de groupe, vous disparaissez, comme si vous aviez, je ne sais pas, peut-être que vous avez du mal quand on excède un certain nombre de personnes sur le plateau, comme si vous étiez plus à l'aise dans le duo. C'est une forme dans laquelle, d'ailleurs, vous revenez plus tard et systématiquement, comme si la danse prenait pour vous véritablement la forme de l'entre-deux.
C'est vrai que je reviens régulièrement au duo, comme je reviens régulièrement à Mua, dans l'expérience du noir. Je crois que le duo, c'est la forme privilégiée pour moi, pour comprendre où j'en suis aussi et qui j'ai en face de moi. Je dirais que pour moi, c'est la forme la plus ergonomique pour mon esprit et je pense aussi pour mon corps. Distribution en cours a failli s'appeler démontage. Je me souviens très bien à Brest. Donc on était en train de répéter dans l'été avec Rachid Ouramdan, Julie Nioche, Yves-Noël Genot, Élise Landegui et Christian Rizzo. Je pense que Cathy Olive qui faisait les lumières n'était pas là encore en août. Il y avait aussi Thierry Foglizo, l'astrophysicien de distribution en cours. Et au moment de donner le titre à Nadège Loire ou Jacques Blanc, on tire au sort distribution. Il y avait trois titres. Relief, au sens de les restes. Ce qui reste, distribution en cours, au sens où tout se, effectivement les rôles se distribuent et évoluent sans cesse, et démontage. Et on lance cette pièce, je me souviens, dans le bar du Quartz, enfin près de la salle de répète, et ça tombe sur démontage, au sens de démonter quelque chose, démonter une machine, et pour moi c'était me démonter moi-même. On tombe sur démontage, je monte dire Nadège Loire, c'est démontage, je redescends, Christian, Rachid me disent mais non, c'est démontage, c'est vraiment pas bien, c'est littéral et tout, distribution en cours c'est mieux. Donc j'ai forcé je n'ai plus écouté la pièce de Monet, j'ai forcé le hasard et je suis remontée dire non, c'est distribution en cours et j'aime beaucoup ce titre encore aujourd'hui. Si je parle de ça, c'est que démontage, et vous dites je disparais après le solo, il s'agissait de me faire démonter, me faire démonter par le groupe, de me faire démonter, de me démonter moi-même, et encore une fois, hein, suite à ce dont on parlait concernant Tout Contre et l'année dans les musées, dans les galeries, les collaborations, c'était aussi une stratégie pour me sortir quelque chose de moi-même, peut-être qui ne sort que maintenant ou qui va sortir sur une vie, mais voilà, me faire sortir de démonter mes recettes, démonter mes implicites, et c'est le groupe qui pouvait m'aider à accomplir ça. Je répète souvent ce mot, finalement, la bande, parce que ma propre psychanalyste m'a révélé ce mot. La bande, c'est aussi bandé, et le groupe, c'est aussi une bande. Et je pense que c'est quelque chose de récurrent pour moi, où j'ai besoin du groupe pour me trouver moi aussi. Le duo est important, mais je crois que la pièce de groupe, régulièrement, et la prochaine pièce, est aussi une pièce de groupe, une pièce de héros, peut-être. Donc je suis démontée par la machine que pousse Christian Rizzo, qui m'avale régulièrement. Effectivement, après ce solo, il y a ce qu'on appelait le dépôt, le démontage, qui fait passer la sculpture mobile qu'activait Christian à un état de paysage horizontal, démonté et inerte. Donc c'est un moment aussi important, puisque j'avais pensé que cette deuxième partie distribution en cours serait une activité hétérogène à la danse. Donc en fait, c'est un démontage qui est fait par les danseurs de la pièce. Mais initialement, je pensais que ce serait peut-être un film ou une sculpture, À l'époque, j'étais en conversation avec Steve McQueen, l'artiste anglais, d'origine jamaïcaine, je crois. On n'a finalement pas réussi à s'entendre, il était très pris. Mais je pensais vraiment que la deuxième partie de distribution en cours, ça serait, j'amènerais les spectateurs voir un film ou voir une sculpture. Il y aurait peut-être eu une sculpture sur une scène pendant 20 minutes sur scène à observer. Finalement, c'est nous qui avons fait cette installation ou désinstallation.
Comment vous expliquez justement que ce projet de film ou de vidéo avec Steve McQueen n'est pas marché, alors même que, vous l'avez dit, vous avez une relation avec un cinéaste, donc Jean-Paul Sivérac, et que jamais dans votre travail, vous n'avez proposé de vidéo, ni de film, contrairement à bon nombre de chorégraphes aujourd'hui. La poésie, oui, les arts plastiques, oui, mais jamais aucune vidéo.
Non, mais vraiment, profondément, je crois que l'image sur scène, alors peut-être que ma prochaine pièce me contredira, et je l'espère, j'espère me contredire souvent, on va dire, en acte, mais j'en suis encore aujourd'hui à penser que l'image sur scène, non pas gagne toujours, mais ne m'intéresse pas comme échelle sur un plateau. C'est-à-dire que, alors qu'elle permet un agrandissement, elle permet aussi au spectateur de peut-être rentrer, d'être plus médusé, d'être plus impressionné, d'être physiquement plus écrasé. Je ne fais pas confiance, mais je n'ai pas envie de voir cette échelle-là sur le plateau. Et profondément, ça ne m'intéresse pas encore. Alors, ce qui pourrait m'intéresser dans l'image, c'est peut-être sa lumière, on va dire sa facture optique, mais l'image sur scène qui pourrait parler d'elle-même, qui pourrait montrer quelque chose, ne m'intéresse pas. Donc effectivement, l'histoire du film avec Steve, c'était ma propre idée, donc lui, il n'était pas là-dedans. Par ailleurs, pour dire pourquoi ça n'a pas marché, il était extrêmement pris, il déménageait de Londres à Amsterdam, où il vit encore aujourd'hui, il venait d'avoir un enfant, et je crois que c'était compliqué pour lui d'imaginer collaborer avec une danseuse. J'aime toujours beaucoup son travail, mais il n'y a pas de lien particulier. Par contre, j'ai rencontré Christian Marclay, musicien qui, à l'époque, virait de plus en plus, enfin accentuait de plus en plus son travail de plasticien. Et j'ai pensé aussi que lui pourrait m'aider, pourrait nous aider à penser une scénographie pour distribution en cours, en même temps qu'il ferait la musique, puisqu'il fait une partie de la musique de distribution. Et tout pareil, ça n'a pas abouti. D'abord, il vivait aussi un moment de sa vie très très actif, donc il ne pouvait pas nous donner beaucoup de temps. Et j'ai fini par me dire, bon ben voilà, si je veux faire un objet visuel, autant m'y coller. On était en train de faire le solo avec Christian Rizzo, qui était assistant donc sur cette pièce. Et une fois qu'on a eu cet objet entre les mains, je me suis dit, mais voilà, on a notre objet. Et ensuite, cette deuxième partie, c'est à moi de la faire, d'en faire une installation ou une désinstallation. Donc d'une certaine façon, je me suis dit, voilà, les plasticiens ne sont pas là pour cette collaboration. Il faut que j'assume le fait de vouloir quelque chose d'objectivement, enfin voilà, des objets et pas une activité de danse à ce moment-là. Mais sur cette place de l'image ou sur cette incapacité à assumer de l'image sur scène, c'est clair que dans mon idée, enfin dans ma façon de revenir au fait qu'il faut que les questions doivent être incorporées, c'est-à-dire elles doivent être portées par le corps, pour l'instant l'image ne trouve pas de place. Et je vois plutôt des pièces aujourd'hui où je suis gênée par la place de l'image. Elles font écran, pour le coup, au travail chorégraphique. Très très souvent pour moi. Donc très souvent l'image affaiblit la scène.
Alors si l'image n'a pas de place sur le plateau, selon vous, selon ce que vous recherchez, les questions que vous posez sur scène aujourd'hui, mais est-ce que le cinéma, parce que le cinéma est un sous-texte, par exemple de la dernière pièce, Avida Enorme, au départ c'est un sous-texte, est-ce que le cinéma a une place dans votre vie? Est-ce que vous êtes cinéphile? Est-ce que il y a une culture du cinéma chez vous, Emmanuel Huyn?
Moi, je ne me trouve pas très cinéphile. Je suis devenue cinéphile par amour à un moment de ma vie. J'ai du coup découvert vraiment un art qui m'importe aujourd'hui. Mais je dois dire que je suis quand même peu cinéma. J'ai pas une grande culture cinématographique. Par contre, ce qui m'a beaucoup guidée récemment dans ce qu'est le cinéma, c'est d'en avoir un fantasme. Et en fait, quand je pense à comment j'ai pensé La vie énorme, A vida énorme épisode 1, ou même la performance qui avait été créée chez Guy Walter et La Villa Gilet en juin 2002, c'est j'ai pris le mot cinéma et le mot bande-son cinéma pour moi-même en me disant, et si je faisais du cinéma, et si je faisais une pièce pensée comme un film, pensée donc une bande-son et pensée une image, et cette image ne sera pas une image projetée, mais plutôt du corps vivant en direct sur scène, et qu'est-ce que j'obtiens si je fais un film en séparant la bande-son de la bande-image? Et qu'est-ce que j'obtiens si je continue à m'appuyer sur l'idée de bande-son cinématographique, si je m'enferme avec un autre danseur qui va lire de la poésie avec moi et un ingénieur son cinéma en nous disant on est en train de faire une bande-son. Donc finalement, le cinéma fonctionne comme un fantasme, au sens, a fonctionné comme un fantasme et comme un guide pertinent pour travailler une pièce chorégraphique en pensant que je faisais un film. Donc encore une fois, c'est tirer les outils d'un autre art, cette fois c'est pas les arts plastiques, c'est plutôt là, l'art du cinéma, attirer ce que je crois être ou ce qu'est en réalité l'outil donc cinématographique, m'en servir, le piller, le transformer pour faire ma propre pièce, mon propre travail.
Alors ce qui est intéressant, Emmanuel Lune, dans ce que vous proposez comme lecture que je peux avoir de votre travail, c'est que vous parlez du cinéma et du cinéma parlant, puisque vous parlez du son au cinéma, en fait, et que dans votre travail, dans l'histoire du cinéma, il y a deux époques, l'histoire du cinéma muet, enfin, comme dirait Marguerite Duras, il n'était pas muet, il était sourd, puisque les gens parlaient, mais les spectateurs ne l'entendaient pas, et ensuite, il y a le cinéma parlant, et chez vous, c'est à peu près la même chose, ça se joue aussi dans l'année 2000, puisque vous disparaissez comme chorégraphe, donc dans Distribution en cours, mais vous exposez, et vous prenez littéralement la parole comme interprète, dans Le Faune, puisque vous êtes interprète donc dans cette reconstruction du faune de Nijinsky, et là, vous prenez la parole, pas simplement le geste, mais la parole sur le plateau. Qu'est-ce que cela a changé, puisque ensuite, vous n'allez plus arrêter de parler. Toutes les pièces vont être parlées.
Oui, vous avez vraiment raison de pointer le faune et son importance. Encore une fois, toutes les pièces sont des occasions de se libérer. De libérer donc là le flux de la parole. J'étais encore, je dirais, jusque-lors, même si Thierry Foglisso, dans Distribution en cours, donc astrophysicien, chercheur au Centre d'énergie atomique de Saclay, parlait des trous noirs, parlait de sa recherche scientifique, donc c'est pas moi qui parlais, mais on va dire par procuration, quelqu'un parlait, ça parlait sur scène pour moi, des trous noirs, je sais pas ce que ça veut dire. Et la même année, donc, en tant qu'interprète, le Quatuor Knust nous demande, donc ce quatuor de notateurs Labanne, Dominique Brun, Simon Equet, Anne Colo et Christophe Vavelet, nous propose, je dis nous, à d'autres chorégraphes et moi-même, donc Boris Charmat, Jennifer Lassé, Jean-Christophe Paré, de nous réemparer de la partition classique, de la partition authentique de Nijinsky, et en même temps d'essayer de dire pour nous-mêmes ce qu'a été ce faune, quel fantasme on avait de ce faune, c'est-à-dire de rejouer pour nous notre propre histoire de la danse, de nous demander d'élucider quelles avaient été finalement notre façon d'être formés et notre plaisir dans la danse. Ils ont trouvé dans ce qu'on a appelé les improvisations mémoire, une façon de nous faire improviser, de nous connecter à notre histoire de danseur, à notre formation, et aussi de la relier à un moment historique, donc 1917, je crois, ou 1912, la création du faune par Nijinsky au Théâtre du Châtelet, sur le livret de Mallarmé, et sur la musique de Debussy. Je crois que D'un faune éclat, donc la pièce du Quatuor Knust, est vraiment un endroit où on a été sollicité, encore une fois, intimement, personnellement, sur ce qu'on était. Et ça a mis le doigt, ou ça a permis, ça a enclenché le fait que je puisse aussi prendre la parole, on va dire, vocalement, avec souffle, sur scène. J'y ai pris un grand plaisir. Ça, je pense, était vraiment aussi un tournant pour Boris, un tournant pour Loïc, qui parle beaucoup maintenant dans ses pièces. Et dont le travail, je trouve, est très, très, a été très singulièrement chamboulé. Enfin, quand on regarde Morceau ou quand on regarde Love... de Loïc Touzé et Latif Alabissi, pour moi, il y a une grande présence du faune. D'abord, c'est pour moi le plaisir d'interprète, de danser cette partition historique, d'être une nymphe et d'être aussi un faune, c'est-à-dire de pouvoir danser la partition de l'homme, qui est une partition absolument sublime. La femme a disparu au bout de 3 minutes, donc c'est frustrant, mais danser le faune, c'est vraiment un moment très fort. Et le fait de pouvoir lier biographème, histoire intime, histoire de la danse et danse en direct, ça a été vraiment une espèce de précipitation très très forte qui m'a, je pense, autorisée aussi à proférer ensuite sur scène.
Et qu'est-ce que vous racontiez donc pendant le faune, Emmanuel Huyne?
Pendant ces improvisations mémoires, je racontais un peu des choses comme on se raconte aujourd'hui à voix nue. C'est-à-dire qu'il s'agissait de... à l'occasion, dans cette improvisation sur le plateau, d'essayer de rendre vivants et présents les partenaires qui ne sont pas sur le plateau, d'essayer de rendre vivants et présents comment on a été formé, quel plaisir on a eu. Donc, j'ai parlé de mon enfance, du handball sur scène à ce moment-là, tout en faisant un espèce de montage, une ellipse de temps, tout en dansant un bout de Mua, ou en dansant, en prenant une position du faune. Donc, on parlait à la fois de comment on a été formé, des pièces précédentes, du plaisir à danser, et de comment nous, en tant que danseurs, on peut se rattacher à notre histoire à travers la figure mythique de Nijinsky. Donc c'était un endroit de dévoilement, d'ailleurs, un petit peu comme à certains moments de l'interview avec vous à voix nue concernant Mua. Des émotions parfois trop fortes m'ont empêché de continuer de danser, et j'ai dû m'interrompre parce que ce que provoquait cette impro mémoire était de l'ordre d'un véritable retournement. J'étais à la fois en train de danser et à la fois d'exprimer des choses personnelles qui me bouleversaient. Mais je crois que ça a été la force des improvisations mémoire du faune et aussi de cette pièce. Alors on n'a pas été prêt tout de suite, je dirais, dans la maturité de ce qu'il fallait, enfin, comme souvent lors des premières. La première était au Théâtre de Caen en janvier 2000 et ensuite à la réouverture de Beaubourg en février. Et je crois que tout ça a été très frais à ce moment-là. Mais on la danse encore et 2 ou 3 ans après, 4 ans après, je trouve qu'il y a une maturité, voilà, dans laquelle je nous sens, à la fois dans notre capacité à nous dévoiler et à la fois dans notre capacité à danser la partition de Nijinsky, je dirais, bien ou normalement.
Vous parlez de ces émotions qui peuvent vous submerger, donc, notamment quand vous dansez Mua ou quand vous avez fait ces improvisations mémoire. C'est Mua vraiment la pièce où vous pouvez vraiment, pas sombrer dans l'émotion, mais vous mettre à pleurer? C'est la seule pièce où il en existe d'autres? Mua, d'ailleurs, est-ce que c'est une pièce qui vous fait encore pleurer?
Oui. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien la voir, puisque Yifang a repris mon rôle. Yifang Li, qui est cette danseuse taïwanaise magnifique, qui travaille avec Mathilde Monnier actuellement. Elle a repris la pièce en mars passé. J'étais en congé maternité. J'aurais beaucoup souhaité la voir. J'espère que je la verrai, puisque je n'ai jamais vu cette pièce. La vivre, la danser m'émeut encore beaucoup. J'étais aussi très, très émue en voyant la distribution en cours danser cette pièce. C'est-à-dire que quand j'étais démontée sur le plateau, j'étais en fait à côté de Cathy Olive en régie pour voir la suite de la pièce, et j'étais très émue de voir l'équipe de distribution danser. C'était aussi très très lié à un moment amical très fort. Et je crois que la pièce qui aujourd'hui m'émeut, c'est Avida Énorme, en fait. C'est pareil, c'est une pièce que je ne danse pas, que je n'ai pas dansée pour cause de maternité. Et c'est quand même une pièce que j'ai commencé de faire sous forme de performance avec Nuno Bizarro. Et aujourd'hui, quand je regarde Catherine Legrand et Nuno la danser après les 25 minutes de son de poésie franco-portugaise, de cette poésie d'Herberto Helder, Je suis profondément émue par cette pièce. Je pense que c'est peut-être la pièce la plus personnelle depuis Mua, enfin, qui touche à quelque chose.
En revanche, tout contre, c'était pas vraiment ça, puisque vous allez le développer cette année-là, en 2000, je crois, puisque vous revenez sur cette proposition qui date de 98, vous remontez tout contre. Qu'est-ce que vous cherchiez à développer ?
En 98, en 2000, je fais un laboratoire qui s'appelle Tout contre, tout contre, où je m'empare de la pièce précédente. J'utilise mon propre travail pour tenter des pistes que je voulais vérifier des pistes pour distribution en cours. L'idée de distribution en cours, c'est l'idée de faire se rencontrer ou se collisionner des pièces, des éléments hétérogènes entre eux, et des temporalités différentes aussi. Donc c'est l'idée de faire se cogner la temporalité du passé, le temps passé avec le temps présent des danseurs. Donc je leur demandais des danses du passé à côté de danses du présent. C'était vraiment une idée très proche de celle du faune que j'avais eue au moment où je préparais distribution, un peu avant de commencer le faune. C'était aussi l'idée de peut-être mettre une pièce, une sculpture ou un film sur scène en même temps que de la danse. Donc c'est devenu le démontage de la machine. C'est l'idée aussi de faire intervenir peut-être un philosophe sur le plateau en même temps qu'on dansait. Finalement, c'est pas un philosophe, c'est un astrophysicien. Mais avant de faire cette pièce, je me dis, il faut que j'essaye pour voir si c'est pas une pure vue de l'esprit que de se dire, on va faire se collisionner les choses et qu'est-ce qui va se passer. Donc l'été d'avant, enfin le printemps d'avant, j'avais la possibilité, grâce à Marie-Thérèse Allier, à la Ménagerie de Verre, de travailler. Et je me dis, j'ai tout contre et je bombarde tout contre d'éléments hétérogènes à cette pièce. Donc je propose à Jérôme Knox, musicien, Dimitri Chamblas, danseur, et Yves Godin, qui lui ne pouvait pas, donc du coup je propose à Cathy Olive, de bombarder cette pièce existante d'éléments qui n'étaient pas dedans.
Qu'est-ce qui vous touche autant dans Avida Énorme ?
Alors, qu'est-ce qui me touche autant dans Avida Énorme ?
Le fait que c'est une pièce qui lie aussi, qui vous lie à Nono Bizarro,
oui,
avec qui vous vivez, et le fait que, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore, vous l'avez répété, mais vous ne l'avez pas encore dansé, c'est peut-être le fait de la voir danser par quelqu'un qui n'est pas vous. C'est quoi l'émotion qui est convoquée là, en fait,
Emmanuel? Alors, Lina, cette première piste est très juste, c'est-à-dire que au moment de l'élaboration d'Avida Énorme, qui veut dire la vie énorme, qu'on peut aussi entendre comme un vide énorme, ou qu'on peut aussi entendre comme la vie des normes, des normes comme des règles. Oui, c'est la pièce dans laquelle j'ai rencontré Nuno Bizarro, qui est devenu l'homme avec lequel je vis aujourd'hui, et qui est aussi le père de mon enfant aujourd'hui. Donc c'est évidemment une pièce qui a rassemblé un moment de vie très fort, en même temps qu'un moment artistique fort aussi, puisque le fait... Comment expliquer ça ? J'ai lu cette poésie d'Herberto Helder en 99, elle m'avait été offerte par un jeune philosophe au Portugal, qui avait vu Mua, et qui l'année d'après me voit faire l'ouverture du musée Serralves à Porto, et qui me dit, ça c'est pour vous, c'est de la poésie pour vous. Je lis cette poésie et je la trouve absolument extraordinaire tout de suite. C'est-à-dire tout de suite, effectivement, je l'ai sentie pour moi. C'est une sorte de poésie blanche, à la fois très spirituelle et à la fois très dans une concrétude et dans une physicalité à la fois très baroque et très américaine en même temps. Donc vraiment, vraiment pour moi, je la lis en français, je reçois ce livre en portugais et en français, je me dis, si je fais une pièce avec ce texte, on doit l'entendre en portugais, et en même temps, je ne comprends pas cette langue. Donc je veux entendre cette poésie dans une langue que je ne comprends pas, et je veux aussi qu'on l'entende en français. Et la façon de la faire entendre, c'était tout simplement de la faire lire par un portugais. Nuno Bizarro est un portugais, donc il la lit en portugais, il me parle en portugais, je ne le comprends pas. Je lui réponds en français, et pour moi, enfin, je crois que cette émotion, elle est liée aussi à ce montage-là, qui est que finalement, je commence à aimer un homme dont je ne comprends pas la langue, auquel je réponds en français et avec qui finalement j'écris un récit dispersé, je crée une bande son cinéma qui porte une histoire dans la, on va dire, dans la pièce elle-même, dans la bande son elle-même, et qui en même temps fabrique notre propre histoire.
Laurent Goumard s'entretenait avec Emmanuel Huyn, prise de son Carole Sans Devoir, réalisation Viviane Noël. Demain, les mots n'existent pas.